C'est Liliane qui nous lira des textes en rapport avec Noël qui se trouve dans
J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui demeure sur la montagne de Sion. Puis il regarda vers la terre et voici la détresse, l'obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le temps de Zabulon et le temps de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Magnifique annonce de la lumière de Noël qui vient précisément crever nos ténèbres, déchirer nos ténèbres. Eh bien, le récit de Noël que j'aimerais vous lire, il est dans l'évangile de Luc. Et là, je ne sais pas si tu as réussi à le mettre sur le projecteur, sinon je le lis comme ça. Ah oui, l'évangile de Luc, les versets 21 à 40. Le huitième jour après la naissance de Jésus, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère ne devienne enceinte. Puis vint pour Joseph et Marie le temps d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Une cérémonie qui devait donc avoir lieu 40 jours après les couches, après l'accouchement. C'est une cérémonie qui comportait à la fois la purification et la consécration. La purification, puisque ces 40 jours étaient considérés, un accouchement était considéré comme un temps d'impureté, puis ensuite la consécration, puisque Jésus était le premier-né. Et la consécration consiste à apporter un agneau pour les gens qui en ont les moyens, ou deux petits oiseaux pour les gens qui sont plus pauvres. Je continue ma lecture. Ils amenèrent donc l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourtereaux ou de jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui. Et le Saint-Esprit lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Alors, averti par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi. Siméon accueillit le petit enfant dans ses bras et remercia Dieu en disant « Seigneur, maintenant tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser aller ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, c'est la lumière qui te fera connaître aux nations entières, aux nations du monde, et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit. Il dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » Le relèvement, on peut aussi le traduire par la résurrection. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et une autre version dit, celui-là est pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël comme un signe qui provoquera la contradiction. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva en ce même moment et se mit à remercier Dieu. Elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Un enfant, signe, lumière des nations, est signe de contradiction. Tout d'abord, j'aimerais faire avec vous un petit micro-trottoir, soyons modestes. Mais quels sont vos sentiments? Quels ont été vos sentiments pendant cette semaine? Ou plus précisément, peut-être maintenant, quels sont vos sentiments en rapport avec cette fête de Noël? Au fond de vous-même, quel est vraiment le sentiment qui vous habite? Et puis, par ailleurs aussi, quels sont les sentiments que nous pouvons observer autour de nous? Alors, franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces sentiments sont contrastés. Vraiment contrastés. D'un côté, on parle de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de lumière, de chant. On chante dans les rues, on entend des concerts qui célèbrent la gloire de Dieu et le bonheur de la fête de Noël. Bonheur, lumière, joie, c'est les mots qui sont les plus souvent utilisés. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment les sentiments qui nous habitent? La semaine dernière, dans l'Hebdo, j'ai trouvé cet article qui est assez redoutable, dont le titre est assez redoutable. Tu peux aussi le projeter, s'il est là-bas. « Quand Noël fiche les boules ». Bon, c'est une expression un peu moderne. Une expression moderne qui veut dire « quand Noël fait peur ». Oui, oui, voilà, il faut se mettre à la page. Est-ce que Noël vous fait peur des fois? J'ai un collègue de travail. Je me souviens très bien du temps où je travaillais au service des routes. J'ai un travail de travail qui me disait, mais tu vois, moi, mon Noël, je le passe toujours tout seul à faire du camping dans les Cévennes. Maintenant, probablement, il me dirait, moi, je passe mon Noël sur une plage dans les Caraïbes, parce que ce qu'on faisait il y a 40 ans dans les Cévennes, maintenant, on le fait ailleurs, à l'autre bout du monde. Mais pour ce monsieur, Noël lui faisait tellement peur. Et d'ailleurs, c'est ce que dit cet article. Dans cet article, on parle beaucoup de la peine que les gens ont à vivre Noël. J'ai sorti cette phrase de cet article, « J'ai rarement vu un adulte qui se réjouissait de Noël. » Alors, excusez, hein, je suis un petit peu un étouffe-joie, mais je tiens à l'être parce que j'aime l'authenticité. Et je crois que ça vaut la peine quand même de regarder ce qu'il peut y avoir d'authenticité au fond de nous-mêmes. Alors, pourquoi est-ce que Noël peut provoquer ces sentiments de... Oui, de tristesse ou pire que ça, enfin de l'inverse de la joie. Eh bien, parce que voilà, à Noël, c'est de tradition que l'on vive un temps en famille. Et pour certains, affronter la famille, c'est un réel souci. Mais il faut le reconnaître. Que nous soyons chrétiens ou non, c'est pas facile de rencontrer dans la famille un beau-frère qui est très, très éloigné de la foi, c'est le moins qu'on puisse dire. Rencontrer des nièces pour qui Noël, ça ne signifie rigoureusement rien du tout. C'est peut-être pas facile d'inviter à notre table un fils ou une belle-fille avec lesquels on n'a pas du tout eu de bon contact pendant toute l'année et qui on ne se gêne pas de se moquer un peu de nous parce que nous sommes attachés aux valeurs de Noël. C'est pas facile, hein? Mais voilà! À Noël, traditionnellement, on cherche à harmoniser, à promouvoir une vie de famille. Le reste de l'année, on reste dans notre bulle individualiste. Puis à Noël, on dit non, 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 il faut casser la bulle. Il faut qu'on se rencontre et qu'on fraternise. Une autre raison aussi, pas très simple. Noël, on est censé fêter un Dieu. Dieu. Et curieusement, on nous dit que ce Dieu... Il a un jour, deux jours, trois jours d'existence. C'est un peu bizarre de fêter un Dieu qui est frêle comme le plus petit des bébés. Et puis, vous l'avez vécu. Vous avez changé complètement vos habitudes cette semaine de Noël, oui ou non? Vous avez changé vos habitudes. Le reste de l'année... Vous vous réveillez à une heure fixe, vous allez à votre travail, vous faites vos activités, tout est cadré, programmé, tout est vraiment bien planifié. C'est quelque part sécurisant quand on est dans un système planifié. Puis tout à coup, à Noël, on vous dit non, non, vous faites sauter complètement vos planifications afin de vivre quelque chose de tout à fait différent. Et puis, ça vous fait quoi? Vous sautez de joie. Des fois. Mais d'autres fois, il faut reconnaître que ces changements de rythme nous déstabilisent. On doit organiser différemment nos journées. On se décentre par rapport à soi-même. On renonce à maîtriser notre vie. Noël, c'est un temps où on s'expose. On sort de nos sécurités. Il faut le voir, il faut être lucide. Sinon, nous ne réaliserons pas vraiment la pleine réalité de Noël. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce que Dieu veut nous faire toucher à Noël quelque chose qui, justement, n'est pas de l'ordre de la vie humaine. Cette vie si bien organisée, si bien planifiée. Dieu veut nous faire toucher à quelque chose de l'invisible. Dieu veut nous faire nous mettre en relation avec le mystère de la vie. C'est pourquoi il nous décentre. Et c'est pourquoi il nous déstabilise. Alors, vous l'avez vu, le texte biblique dit quelque chose qui résume bien ce que j'ai essayé de révéler de nos émotions de Noël, puisqu'il est dit que Jésus sera à la fois lumière et contradiction. Mais voilà, revenons à notre histoire. On peut passer éventuellement au dia suivant. Ah ben voilà. On va parler de Siméon. Siméon. Alors, ça vaut la peine quand même de découvrir ce personnage. On n'a pas souvent prêché. Pour moi, c'est la première fois, je crois, que je prêche sur Siméon. J'ai été surpris. C'est quand même étonnant comme Dieu s'y prend. Dieu a mis la forme quand même pour visiter ceux qui allaient annoncer Noël. Dieu a envoyé sa meilleure chorale pour prêcher la bonne nouvelle aux bergers. Les meilleurs anges du ciel sont descendus, ils ont chanté les plus beaux chants pour annoncer aux bergers qu'il y avait eu cette naissance extraordinaire. Et les bergers, moi je vous le dis, ce n'étaient pas des gens qui avaient une très très bonne réputation à l'époque. Eux, les bergers, hein, souvent il y avait des trucs bizarres qui se passaient là entre eux. Dieu envoyait sa plus belle chorale pour les bergers. Ensuite, Dieu s'est intéressé à des païens, des rois mages, des magiciens qui vivaient quelque part en Iran. Tiens, l'Iran a un peu mauvaise réputation. Mais à cette époque-là aussi, l'Iran avait mauvaise réputation. Et c'est là-bas que Dieu envoie une étoile et que trois hommes se disent « Mais cette étoile, elle nous parle. » Alors on se questionne, on se laisse questionner, puis on va se mettre à la suite de l'étoile. Et l'étoile les conduit à Bethléem. Siméon, le texte nous dit que Siméon était un homme pieux qui attendait Dieu. Siméon n'a eu ni ange, ni étoile. Ah, Dieu est étonnant dans la manière dont il agit, nous surprend. Siméon était connu comme juste et pieux, je viens de le dire. Siméon attendait, et il attendait parce que manifestement c'était un prophète. Un grand prophète, et pourtant un homme éminemment discret. Il savait que le Christ, enfin, il espérait que le Christ allait venir. Et en même temps, Siméon a eu cette immense sagesse de ne jamais rien faire pour anticiper sur l'événement de la venue du Christ. Je vous cache rien. Israël, qui vit tellement fortement dans l'attente de son Messie, a tout au long de son histoire décrété que tel était l'homme et tel Messie. Il y a eu, par exemple, au XIVe siècle, un célèbre, je ne sais plus son nom, mais un homme qui a été considéré comme le Messie et qui a fait flamboyer toute la pensée juive dans tout le monde entier, enfin le monde juif d'ailleurs, d'alors. Et il n'y a pas très longtemps, dans notre siècle, il y a aussi un Messie, un homme qui s'est présenté comme le Messie, mais voilà, il est mort. Siméon a eu cette sagesse de ne pas anticiper, de rester dans l'attente. Nous aussi, hein, on est un petit peu parfois comme ça. Ce n'est pas très stimulant d'attendre. Honnêtement, il arrive que l'on préfère l'action. Et pourquoi pas, j'entends, c'est utile d'être en action. Mais voyez-vous, devant Dieu, il y a parfois des attentes qui valent plus que de l'action. Attendre, c'est laisser Dieu agir. Parce que c'est Dieu qui va réaliser son œuvre. C'est lui qui met vraiment en œuvre son projet. Nous ne pouvons être que des Siméons, des admirateurs, des contemplateurs. Siméon avait une attente qui était habitée d'un immense espoir, d'une immense confiance et d'un amour incommensurable. Espoir, confiance, amour, ça ne vous dit rien ? Moi, j'entends sous la plume de l'apôtre Paul, foi, espérance et amour. Et l'apôtre Paul nous dit que ces trois vertus ne disparaîtront jamais. C'est vraiment les vertus de Siméon. Foi, espérance, amour. Et Siméon, nous dit le texte, et il insiste, était rempli du Saint-Esprit. Rarement dans un texte, vous avez autant d'attributs élogieux vis-à-vis d'un homme. Dans trois versets qui se suivent, il est mentionné la présence du Saint-Esprit dans la vie de Siméon. L'Esprit était avec lui, verset 25. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit, verset 26. Puis il était poussé par l'Esprit, verset 27. C'est pas mal quand même. Un homme qui réellement vivait une communion de l'Esprit. Moi, je dirais en langage plus moderne, un homme baptisé du Saint-Esprit, mais non pas comme une expérience initiatique originelle, mais une expérience quotidienne. Et puis, une autre chose étonnante, parce qu'il faut lire les textes dans leur profondeur et découvrir tous les étonnements qu'ils nous apportent. Il y a une autre chose étonnante. Siméon est conduit à aller au temple. Il va rencontrer Jésus au temple. Le temple. Pour nous, le temple, c'est la maison de Dieu. C'est vraiment le lieu, d'ailleurs ça s'appelle comme ça, le lieu saint. Puis dans le lieu saint, il y a un lieu très saint, le temple. Et puis tout le monde rêve à reconstruire un temple, etc., en pensant que Dieu sera honoré par la construction d'un temple. Mais là, chers amis, je vous livre une réalité qui ne m'est apparue que quand j'ai retravaillé ce texte. À vrai dire, déjà du temps de Jésus, déjà du temps de Siméon, le temple était très, très contesté. Certains niaient complètement ce rôle de présence de Dieu au temple de Jérusalem. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Qui en particulier le niait? Eh bien, les Esséniens. Et pourquoi est-ce qu'ils le niaient? Pour une raison très simple, parce que le temple de Jérusalem, qui avait été rebâti du temps des Maccabées, si je ne me trompe pas, avait en fait été restauré par Hérode. Hérode est un demi-païen. Donc ce n'est pas très flatteur pour les Juifs que ce soit un demi-païen qui construise leur temple. Donc les Esséniens purs parmi les purs disaient « Moi, je ne mettrai jamais les pieds dans le temple de Jérusalem. » Et puis, il y en avait d'autres. Il y avait les Samaritains qui ont dit « Je ne mettrai jamais les pieds dans le temple de Jérusalem. » Puis Jésus lui-même, à un moment donné, il était fâché contre son temple, contre le temple de son Dieu. Eh bien, malgré tout, malgré que ce soit dans un lieu contesté, c'est là que Dieu a rencontré Siméon. C'est là, j'allais dire, que Dieu s'est laissé rencontrer par Siméon ou que Siméon a rencontré Dieu. Même dans un lieu délaissé, même dans un lieu contesté. Vous connaissez d'autres lieux contestés, vous? Lesquels, par exemple? L'Église. Je vous surprends? Qui ne conteste pas l'Église? Qui ne dit pas que l'Église a tout plein de défauts, tout plein de... etc., etc., etc. Et puis on va énumérer ses défauts pour justifier que finalement elle a perdu son crédit. C'est intéressant ça. Bien oui, c'est souvent dans les lieux contestés que Dieu continue de se manifester. Là, il y a de quoi nous souvenir. Qu'est-ce qui a permis cette rencontre? Eh bien, une passion. Siméon est un passionné de Dieu. Mais une passion qui est faite d'une attente. Et comme je l'évoquais avant, pour nous, souvent, la passion, c'est un moteur, une force qui nous conduit à réaliser des choses hors du commun. Qu'est-ce que Siméon a réalisé? Eh bien, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, rien du tout. Il n'a rien fait aux yeux des hommes. Et qu'est-ce qu'il a réalisé aux yeux de Dieu? L'essentiel. Tout. Le plus important, Siméon a permis que Dieu trouve quelqu'un qui l'accueille dans son temple. Dieu a été accueilli par Dieu au travers de Siméon dans son temple. Siméon a offert à Dieu un accueil digne de son rang. Et s'il n'y avait pas eu Siméon et Anne, j'aimerais aussi honorer la présence d'Anne. Dieu merci, un homme et une femme sont là pour accueillir Dieu. S'il n'y avait pas eu Siméon et Anne, Dieu n'aurait pas vraiment été dignement accueilli dans son temple. Les prêtres auraient certainement fait leur travail, selon la loi, avec rigueur. Mais vous savez, les prêtres sont souvent débordés. Et alors, ils l'auraient fait peut-être d'une manière un peu machinale. Siméon, un regard, un accueil. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Noël qui est barbant, lourd à porter et que je cherche à fuir, ou un Noël qui donne sens? Eh bien, la différence, c'est tout ce qui va se passer au fond de mon cœur, les yeux de mon cœur. Si mes yeux sont habités d'une présence, Noël va trouver son sens. Et alors, Siméon, prophète, devient un père spirituel. Et c'est vrai que tous les vrais prophètes sont invités à devenir des pères spirituels. Et réciproquement, tout père spirituel est prophète à sa manière. Et le rôle du père spirituel est de bénir. C'est ce que Siméon va faire. Bénir. La plus belle des choses que nous sommes invités à vivre, ça pourrait être un magnifique projet pour l'année à venir, c'est de bénir. Dans ce débordement de bonheur qui est le sien, Siméon n'a qu'une envie, c'est de bénir. Alors il bénit Dieu qui lui fait la grâce d'accueillir cet enfant. Il bénit l'enfant lui-même et sa bénédiction s'adresse au maître. Donc on sent chez Siméon, mais il faudrait que j'aie beaucoup plus de temps pour montrer cette finesse où il bénit le maître, qui est à la fois le maître des lieux et qui est à la fois celui qui est entre les mains de Siméon. C'est le geste du père de famille de bénir. Le père de famille bénit l'enfant à sa naissance. C'était la tradition juive, puissions-nous la garder. Et le père et tout homme, à la fin de sa vie, bénit sa famille qui va lui survivre. La bénédiction fait naître la vie chez les autres. Elle fait naître Dieu chez les autres. Elle fait jaillir Dieu chez les autres. Elle restaure chez les autres l'image et la ressemblance de Dieu. Elle façonne l'autre. Vous savez, la bénédiction. Ah, le rôle qu'elle a. Puis une bénédiction, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très formel, de très majestueux. Ça peut être juste une parole d'encouragement. Ah, mais aujourd'hui, c'est du plaisir à te rencontrer. Ah, mais c'était sympa ce que tu m'as dit. C'est sympa que tu sois là. Écoute, voilà, comment vas-tu? Quels sont des simples mots d'amitié, des simples mots qui donnent du sens et qui finalement ont pour nous un parfum d'éternité. Pour Marie, la bénédiction a été plus personnalisée. Et c'est touchant, Siméon était le seul homme qui a adressé une parole à Marie. Les bergers, les mages, ils ont essentiellement parlé de Jésus ou à Jésus, puis jamais à Marie. Tandis que là, Siméon s'est adressé à Marie. Et il lui a dit des choses certes douloureuses, mais avec un ton et une attitude telle qu'elle a pu les recueillir. Et ces choses ont fait sens à sa vie. Ces choses ont montré, ces paroles ont montré que Marie était inscrite dans le projet de Dieu. Et que ce qu'elle allait vivre jusqu'au drame de la croix n'était pas hors de ce projet de Dieu. Mais voilà, il faut venir enfin à mon origine là. Voilà une belle image de Siméon. J'en ai trouvé une autre, c'est peut-être la plus belle. Parce que, elle développe le sens de la lumière. Mais on y reviendra. Puis il y en a une troisième avec Anne qui est là. Mais on viendra à la deuxième. Donc Siméon prophétise et annonce deux aspects du ministère du Christ. Lumière des nations. Et on le voit déjà dans cette dynamique de lumière. Lumière des nations. Alors c'est vrai, il ne répète et ne concrétise que ce que l'Ancien Testament dit. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé pour faire de toi l'alliance des peuples, la lumière des nations, Ésaïe 42. Et Jésus lui-même a attesté son ministère. Je suis la lumière du monde. Donc là, rien d'exceptionnel, mais par contre, ce qui surprend, c'est que Jésus sera un signe de contradiction. Et en effet, signe de contradiction parce que beaucoup d'hommes et de femmes ne comprennent pas ou n'acceptent pas que Jésus est le signe qui vient de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes sont indifférents à ce signe. Et c'est pourquoi, nous dit le texte, ils commenceront par être un sujet de chute. D'ailleurs, Paul reprendra cette thématique où Jésus est une odeur de mort, une odeur de vie, etc. Mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Il commencera à être une question de chute pour eux, pour ensuite les inviter à la résurrection, à se relever, de relèvement. Ils s'opposent à la foi, beaucoup s'opposent à la foi, alors que d'autres cherchent au contraire à entrer. Oui, un signe qui apparaît soulève contre lui l'opposition. Et je l'ai dit pourquoi au début. Ce n'est pas facile d'accueillir Dieu sous la forme d'un enfant. Et ce n'est pas facile parce que si je l'accueille, eh bien, j'entre moi-même dans ce chemin de vie et de lumière qu'il m'invite à parcourir. Je vais peut-être devoir y rentrer jusqu'à y donner toute ma vie. Moi aussi, comme Marie. Peut-être je devrais aussi donner ma vie pour lui. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la donnera la retrouvera. C'est très biblique, c'est à mettre un peu en perspective de ce qu'on vient de lire. Ou alors par contre, si je veux sauver ma vie, garder mes certitudes et garder mon indépendance, mon autonomie et ma liberté, eh bien, je vais être indifférent à l'amour du Christ. Je vais refuser son amour. Et si je vais refuser l'amour du Christ, je vais être de ceux qui vont réclamer sa mise à mort. Oui, les rendez-vous avec le Christ, même le Christ bébé, nous invitent toujours à mettre nos cœurs à nu. J'aimerais quand même, pour éviter qu'on me comprenne mal, préciser une chose. Le Christ, un sujet de contradiction, pas seulement toujours extérieur, pas seulement la contradiction entre les croyants d'un côté, les non-croyants de l'autre, et puis on fait une muraille entre deux. Moi, je crois qu'il y a aussi des attitudes intérieures en nous qui sont des attitudes de croyants et des attitudes d'incroyants. En nous. Et c'est pour ça que Noël nous fait peur. C'est pour ça que les rencontres de famille parfois nous troublent. Parce qu'on se rend bien compte qu'à l'intérieur de nous-mêmes, parfois nous sommes païens, parfois nous sommes chrétiens. À l'intérieur de nous-mêmes. Si j'ai tort, vous pourrez me lapider. Mais pour ma part, je le dirai volontiers. Donc, ce paradoxe, cette contradiction que Jésus est venu apporter, eh bien, elle est là pour révéler en nous-mêmes quelles sont les attitudes qui sont inspirées par Dieu ou quelles sont les attitudes qui sont étrangères à la vie de Dieu. Alors, ma prière, c'est que réellement la lumière du Christ, cette lumière, lumière des nations, vienne dévoiler nos zones d'ombre pour nous permettre de vivre réellement un relèvement, une résurrection. Voilà ma conclusion. C'est vrai que nous souffrons tous de ce côté mercantile de la fête de Noël. Nous désirons tous que Noël retrouve un sens. Eh bien, soyons des Siméon. Soyons des hommes et des femmes qui discernons la présence de Dieu, les signes de Dieu, les signes du royaume au cœur de notre monde. Soyons des hommes et des femmes attachés à bénir, bénir et toujours bénir. Et ne soyons pas du tout surpris de ce paradoxe de Noël, parce que ça fait 2000 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans que Noël reste toujours un signe de lumière et un signe de contradiction. Telle est la volonté de Dieu, dont le royaume, dont la présence, dont le royaume au cœur de notre monde reste toujours discrètement enfoui, comme un trésor qui dort dans un champ. Que Dieu nous donne des yeux, un cœur et une bouche comme celle de Siméon. Amen.